les voilà pas si j'y suis.
Échappée belle.
L'échappée belle.
Salut, c'est Pénélope.
Salut, c'est Cristal.
C'est Maya.
L'échappée belle.
Salut, c'est Anna.
C'est René.
Échappée belle.
Échappée belle. Belle, belle, belle.
L'échappée belle sur CFM Rhodes.
Bien le bonjour chez vous en ce lundi du mois de mai où vous faites ce qui vous plaît. C'est la 16e de l'échappée belle, émission où les femmes ne se démontent pas et vous emmènent sur des routes non balisées grâce à CFM Rhodes sur 107.9. Sont au rendez-vous de cette 16e édition des échappées belles et joyeuses, mais pas très nombreuses aujourd'hui. J'accueille donc autour de cette table René.
Bonjour tout le monde.
Cristal.
Bonjour, bonjour.
Pénélope.
Salut à tous.
Hello girls. Alors, pour fêter le mois de mai à la hauteur de vos espérances, on vous propose les coups de cœur des échappées belles, autrement dit les ça nous botte. Et c'est René qui ouvre la marche avec... le sujet qui va bien.
Et ouais, je suis très business moi aujourd'hui. Hein, attention, hein, on est dans la performance et l'efficacité professionnelle. Et vous le savez, les réseaux sociaux, les filles font partie de notre vie.
Hein,
oui, ils ne sont pas prêts d'en sortir. Rien que sur Facebook, en France, on est plus de 30 millions d'utilisateurs. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux se sont bien installés dans notre quotidien. Et au-delà des photos de notre dernière soirée arrosée, du premier popo de notre petit ange, des citations d'amour du groupe des connasses de l'être ou du selfie en mode duck face, les réseaux sociaux peuvent aussi être très utiles pour trouver un job. Et oui, on peut aussi l'utiliser pour ça. Et pour ça, eh bien, il y a quelques astuces que je vais partager avec vous rapidement. Mm-hmm. Alors ça c'est vraiment, je dirais, en dehors du fait de rechercher un emploi, c'est aussi une question de bon sens, c'est qu'il est important de savoir que rien, je dis bien rien, mesdames, messieurs, n'est confidentiel. Il existe des moyens hyper simples d'accéder aux publications privées sur votre compte Facebook, sachez-le. Donc les photos un peu olé olé sont visibles finalement. Oui, et oui, tout à fait.
Et oui.
Et sachez aussi que de plus en plus d'employeurs ne se privent pas d'utiliser ces moyens pour récolter des infos sur les potentiels candidats et même sur leur salariés. Alors attention à ce que l'on publie, une fois que c'est sur la toile, on en perd le contrôle. Voilà, c'est dit. Donc n'hésitez pas aussi à taper votre nom sur Google, hein, au-delà du fait de flatter votre ego, vous pourrez identifier assez rapidement tout contenu qui pourrait nuire à votre recherche d'emploi. Une fois cela fait, eh bien il faut choisir des réseaux sociaux adaptés pour une recherche d'emploi justement. Alors on va bien sûr citer Facebook et Twitter comme les deux gros mastodontes absolument incontournables. LinkedIn est la plateforme professionnelle par excellence, tout comme Viadeo qui se veut être sa version française. Alors si vous êtes plutôt artiste, vous avez de belles créations à partager, vous êtes artisan, vous avez beaucoup de créativité, n'hésitez pas à être présent sur Instagram et sur Pinterest. Là, j'attire votre attention sur le fait que sur ces sites-là, l'accent est mis sur l'esthétique, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre un accent particulier à la beauté de ce que l'on va publier, de très très belles photos, auxquelles on va ajouter les fameux hashtags relatifs à vos produits, à votre activité. Ça va permettre en fait d'être bien référencé, c'est-à-dire qu'un candidat ou un recruteur éventuel pourra vous retrouver si vous avez bien identifié vos créations avec le hashtag qui va bien. Lorsque vous êtes sur ces réseaux sociaux aussi, pensez à bien renseigner vos profils. On évite donc la photo du dernier enterrement d'une jeune fille. On a la mine un peu entamée déjà. On va plutôt privilégier une photo de profil assez cool et sympa. Ça reste quand même un réseau social, c'est pas non plus un CV. On remplit aussi un maximum d'informations sur son parcours professionnel, sur son expérience. Et justement, LinkedIn et Viadeo que je citais tout à l'heure sont parfaitement adaptés pour ça. On va aussi s'atteler à suivre l'activité des entreprises qui sont susceptibles de recruter. On va engager la conversation avec ces entreprises-là via les réseaux sociaux autant que possible, avec les règles de base, orthographe impeccable, un ton professionnel mais pas trop formel non plus, et on va montrer que l'on est très intéressé par l'activité de cette entreprise, et ça va nous permettre de marquer des points. Et avec peut-être à la clé donc un entretien qui débouchera, qui sait, sur le job de vos rêves.
Eh bien très bien, merci René pour
avec
ces
plaisir.
Bons conseils. Je crois que Cristal, en ce début du mois de mai, tu veux nous surprendre à ta manière en nous contant Fleurette.
Oui, alors moi je suis pas dans le business, je suis dans les fleurs aujourd'hui, dans la série Vive le printemps, avec des fleurs dans les champs, sur le balcon ou dans les vases. Et mais pourquoi pas dans votre assiette, hein. Savez-vous que plus de 250 espèces de fleurs sont comestibles?
Ah ben d'accord.
250, ouais, quand même. Les adeptes de la cuisine sauvage les incorporent dans leurs plats, à l'image de Michel Brass et son emblématique gargouillou. Pourtant, leur utilisation ne date pas d'hier. Apicius proposait dans les banquets de l'Antiquité une fricassée de légumes secs appelée Minutal Apicianum avec des fleurs de mauve séchées. On se souvient tous d'avoir sucé les pétales sucrés des fleurs de trèfle.
Ouais, hein, tout à fait.
Ah ouais.
Madeleine de Proust.
Et on connaît toutes les desserts aromatisés à la fleur d'oranger. Les violettes de Toulouse, bien sûr. Et peut-être les beignets de fleurs de courgette.
Et d'acacia.
En Aveyron, ah, oui. Voilà. En Aveyron, c'est les beignets de fleurs d'acacia et la limonade de fleurs de sureau.
Ah ouais, excellent.
Alors qu'elles soient décoratives, colorante, aromatisante, fraîche, séchée ou cuite, en infusion, en décoction ou en macération, il faut quand même suivre quelques règles de base. Tout d'abord, identifier les fleurs comestibles.
Ben oui. C'est mieux, hein.
Voilà. Certaines, comme le muguet. Voilà, le muguet, il n'y a pas très longtemps, on ne le mange pas.
La digitale.
La digitale, voilà, aussi. Super toxique, tout ça. On utilise des fleurs saines, c'est-à-dire non traitées. Pas la peine de dévaliser le fleuriste, et hors pollution urbaine ou animale. Donc l'idée, c'est de se trouver un joli petit coin bien paumé ou alors de les cultiver soi-même. C'est le bon moment. L'idéal, c'est de les cueillir en début de journée, de les rincer à l'eau froide, de prélever uniquement les pétales. Comme ça, on évite aussi les possibles allergies au pollen.
Ah.
Et on les consomme rapidement si on veut profiter au maximum des couleurs, mais aussi des sels minéraux, des oligo-éléments et des principes actifs, parce qu'il y en a aussi dans les fleurs des principes actifs. Donc on en consomme avec modération. On ne se fait pas une overdose de pâquerettes, par exemple.
Hyper dangereux, il paraît.
Ouais.
D'ailleurs, Prince, il faudrait chercher une piste là-dessus.
On lance l'enquête.
Prince et la pâquerette, c'est prouvé.
Alors, je propose de vous laisser surprendre par le goût iodé des fleurs de bourrache, ou alors celui un peu plus poivré des fleurs de capucine ou de pâquerette, on en parlait, le goût doux du souci, ou encore celui genre fruit de la passion des œillets, les œillets d'Inde.
Ah oui,
pas tous les œillets. Mais
tu nous feras découvrir tout ça,
mais
Christelle.
Mais oui, à l'occasion. Oui. La prime vert et le bégonia ont un petit goût fruité citronné. La campanule, par exemple, a un goût de petit pois.
Ah,
et le mufflier, une saveur d'endive. Et le tournesol, un goût d'artichaut.
Ouais.
Et maintenant, donc, place à la créativité. On peut commencer léger en mettant quelques pétales dans le bac à glaçons.
Ah oui, pour faire joli.
Voilà, ça fait joli. Et puis ça
aromatise un peu l'eau, non ?
Un petit peu léger. Hein. Ou alors, essayez le bissap.
Ah oui !
Aux fleurs d'hibiscus. Yes. Super désaltérant. Pour une découverte niveau intermédiaire, on peut tester donc une salade ou un taboulé parsemé de fleurs de capucine, de violette et de bourrache. Ou une crème à la pensée. Les plus aventuriers testeront la soupe au bégonia, la purée de pâquerette, le poulet à la lavande, les beignets de glycine ou la gelée de lilas.
Ah ben dis donc.
C'est des jaunissants, ça fait rêver aussi.
Ah ben oui, ça donne envie.
Ouais.
Hein.
Voilà. Donc moi, je vous invite à taper sur vos moteurs de recherche cuisine aux fleurs, ou éventuellement de feuilleter un livre de Bernard Bertrand qui s'appelle « Saveurs printanières de fleurs sauvages ». Et éventuellement, si vous vous retrouvez au marché de Rieux-Pérou ou celui de Sauveterre, il y a un maraîcher de Castanet qui propose des fleurs comestibles, Monsieur Bruno Boyer. Autre possibilité, de suivre sur la page Facebook de Naturellement Simple, hein, qui organise des ateliers de cuisine sauvage à Saint-Laurent-de-Lévézou. Voilà.
Eh ben c'est beau.
Super,
tout ça. Hein.
Merci.
Bravo. Alors, on conclut en beauté également. Pénélope, tu sors des sentiers battus, tu nous amènes au château de Taurine. Mais pourquoi faire ?
Eh ben voilà. Alors, peut-être que vous connaissez déjà les filles, mais moi j'ai découvert ça.
Non.
Voilà. Alors je dis, c'est fou quand même que personne ne soit au courant. Parce qu'au château de Taurine, au-delà d'être un château fort du XIIIe siècle, paumé au milieu du Nocellois, donc tu y vas pas comme ça hein, si tu sais pas, ce château donc était complètement en ruine. Donc déjà à noter, c'est qu'il est rené de ses cendres grâce à une asso hein, qui est sur le coin, en partenariat avec les artisans du coin et les compagnons du devoir. Donc ils l'ont complètement réhabilité. Ils ont fait des travaux à l'intérieur dignes de chef-d'œuvre. Hein, donc rien que pour ça, maintenant ça mérite d'aller visiter hein, le château. Et en plus, ils en ont fait un lieu culturel. C'est-à-dire qu'il s'y passe des concerts, des pièces de théâtre et des expos d'art contemporain.
Et alors, j'en parlais pour le musée Soulages, mais eux, ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les abattoirs. Voilà. Donc, chaque été, wow. au château de Taurine, il y a une expo qui est réalisée avec donc les abattoirs et des œuvres...
Abattoirs de Toulouse.
Alors, ça n'a rien à voir avec la viande et toutes les polémiques qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Les abattoirs, c'est le musée d'art contemporain de Toulouse. Si vous avez l'occasion, bien sûr, allez-y parce que c'est un lieu fantastique. Alors, il faut pas avoir peur de l'art contemporain. Ce musée, il est très très agréable, on s'y sent pas tout petit, on a envie de découvrir les œuvres, c'est très ludique, c'est très bien fait. Et donc ils travaillent avec le château de Taurine, donc des expos à découvrir chaque été. Donc ils travaillent avec une association locale, Yaka et compagnie, que vous pouvez retrouver également donc sur internet, qui donc met en place toutes ces animations. Et donc avec la FRAC, hein, qui est la Fédération Régionale de l'Art Contemporain. Donc ça existe depuis l'année 2000. Donc,
c'était en partenariat avec le Conseil Général aussi, je pense.
Peut-être, là j'ai pas d'infos, tu vois là-dessus.
Depuis le début. Pas énormément.
Eh ben non. Et ils travaillent également avec le Palais des Évêques, de Saint-Lizier, avec la grotte du Mas d'Asile en Ariège, avec l'abbaye de Flarens dans le Gers. Donc ils travaillent avec plusieurs coins de Midi-Pyrénées. Et chez nous, donc c'est le château de Taurine qui a été choisi. Donc là, prochain rendez-vous. Donc une expo avec deux artistes locaux jusqu'au 29 mai. Donc il y a des tableaux et des sculptures. Et la prochaine expo donc partagée avec les abattoirs, ça s'appelle Festem. Et vous pourrez découvrir les œuvres de 14 artistes régionaux. Et je pense que ça mérite vraiment, vraiment le détour. Voilà.
Donc château de Taurine, dans le Nocellois.
Voilà, à côté de Centresse, plus précisément.
Ben voilà.
Voilà, et n'hésitez pas à aller voir le site donc de Yaka et compagnie sur internet. Vous tapez Yaka, alors Yaka, Yaka. Et compagnie. Et d'accord. Vous aurez toutes les infos.
Eh bien, merci beaucoup, les filles.
Pour cet été. Merci.
On enchaîne à présent avec la rubrique Entre vous et nous, tout est dit. Autrement dit, l'interview de la semaine avec madame Patricia Fontanier, directrice de la CCI de l'Aveyron. Merci, Patricia, de votre présence. Bienvenue sur CFM Rhodes.
Merci beaucoup. Bonjour aux filles. Bonjour. Merci, Angeline, de cette invitation. C'est une première pour moi et ça va être une véritable expérience.
Eh bien, on va vous porter chance, je l'espère. Donc, on va vous questionner un petit peu. Donc, je sais que depuis le 1er août 2015, vous avez été nommée directrice de la CCI de l'Aveyron. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période, si vous avez un petit bilan à nous évoquer?
Avec plaisir. Alors, un bilan, je pense pas, parce que je pense que le bilan, c'est une fin d'une aventure, fin d'une période. Moi, je crois que ça s'ouvre, hein. C'est vraiment plutôt mes ressentis, l'état d'esprit. C'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que je suis à la tête de cette chambre de commerce, mais plutôt qu'en haut, je suis vraiment au centre. C'est mon bilan, si je devais en faire un, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, j'ai une grande chance d'être entourée de personnes de grande qualité. Une directrice, ça pilote une équipe de techniciens, c'est aux côtés des élus, c'est pas moi qui dirige la chambre de commerce. La direction, la stratégie, c'est un président, c'est des élus qui sont là pour fixer le cap. Moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien. Et après quelques mois, je peux dire que c'est une chance d'être accompagnée de collaborateurs engagés avec des gens de grande qualité, complémentaires, humbles, simples. Et c'est aujourd'hui, mon bilan, il est là, plutôt. C'est
plutôt humain.
Dire, voilà.
D'accord. Une petite satisfaction quand même. Vous aviez des appréhensions au départ? Parce que vous êtes quand même issue de la CCI.
Voilà,
vous avez gravi les échelons.
Ça a été des étapes. Mm-hmm. Je suis arrivée à la chambre de commerce dans les années 2000.
D'accord.
Je travaillais auparavant 6 ans dans une société, dont une grande partie, 5 ans, société d'économie mixte. J'avais envie de revenir vers l'entreprise. J'étais plutôt proche des collectivités. Et ça a été un cap pour revenir vers l'entreprise. Donc, conseiller en formation pendant plusieurs années, au service des entreprises et du centre de formation. Et là, on côtoie des dirigeants, on côtoie des consultants, on côtoie des gens qui nous permettent de grandir de par leurs compétences, de par leur vécu. Ensuite, je suis devenue directrice des services aux entreprises. Au moment de la fusion, on m'a confié justement la responsabilité du projet de fusion, le rapprochement
voilà,
des équipes.
Avec Millau, hein, n'est-ce voilà. pas, la CCI de Millau et de Rhodes, maintenant
tout
ne font
fait.
Plus qu'une, et c'est la CCI de l'Aveyron. Donc
voilà.
ça a été une de vos missions.
En 2010, au moment de la fusion, on m'a demandé de travailler à ce projet. Au niveau justement des équipes, le rapprochement des équipes et la construction d'une nouvelle organisation. 2011, la fusion a mis en œuvre ce projet. Et donc,
et ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. Justement, aujourd'hui, on ne parle plus de Millau et de Rodez, on parle de l'Aveyron. Et pour preuve, nos élus ont décidé de supprimer la délégation, qui techniquement, juridiquement, est l'organisme qui permet de maintenir la pesée économique des représentations du Sud Aveyron. Et désormais, ben, c'est la CCI Aveyron avec les Millavois, les Nord-Aveyronnais, les Villefranchois, les deux Cazevillois, enfin, l'ensemble des dirigeants de l'Aveyron qui se retrouvent autour d'un
projet
commun.
Oui.
Parce que le véritable projet, il est plus aveyronnais, il est de faire exister l'Aveyron dans en Midi-Pyrénées déjà.
Dans le tissu économique
temps.
Régional.
Voilà. Mmh. Et la future chambre régionale qui sera mise en œuvre en 2017, elle sera Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées.
Et voilà.
Véritable
Donc
projet,
là aussi, il y a un enjeu.
Ouais. Tout à fait. Mmh.
Et justement, dans ce projet-là, quelles sont les ambitions de la CCI? Enfin, placer l'Aveyron en premier, enfin, je ne sais pas comment
en premier,
le
ça sera difficile.
Oui.
C'est vrai qu'on on est
mais
actuellement...
quand même un bon dynamisme.
Voilà,
enfin.
Tout à fait. Mmh. La chambre, parce que les élus et les dirigeants qui nous ont précédés ont véritablement été engagés, ont investi, ont mis en œuvre des formations, des outils de développement des entreprises qui n'existaient pas ailleurs, on a des bonnes bases et un socle qui permet de croire en l'avenir.
Moi, donc on a été novateur à une époque,
oui.
Et ça permet aujourd'hui pas d'être leader, mais d'être un département dynamique.
Donc d'être un département dynamique avec des outils qui sont proches des entreprises. Et donc, effectivement, l'objectif pour l'avenir, c'est de faire que cette CCI du nord de la grande région continue à compter, puisse toujours apporter un véritable soutien aux entreprises. Et l'enjeu, s'il n'y avait qu'un enjeu, c'est bien de maintenir l'offre de services et maintenir des compétences et donc des personnes au service des entreprises sur le territoire.
D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de femmes qui sont directrices de CCI en France ?
Alors le nombre, je vous le dirai pas, je ne le sais pas.
D'accord.
Ce que je sais, c'est que lorsque je suis arrivée il y a quelques mois, nous étions, il y avait au niveau de Midi-Pyrénées 4 personnes. La directrice du Lot, la directrice du Tarn-et-Garonne et la directrice du Gers. Et désormais, nous ne sommes plus que deux.
D'accord.
Ces deux femmes sont parties. Donc, au niveau du comité régional, il y a deux directrices. Au niveau France, il y avait une directrice qui n'y est plus non plus. Donc, il y a peut-être un peu moins.
D'accord.
Depuis quelques mois de femmes
au sein
des directions.
D'accord. Et justement, est-ce que c'est plus dur pour une femme d'être directrice d'un tel organisme, parce que en face de vous il y a des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise qui sont majoritairement peut-être masculins. Est-ce que c'est plus dur pour une femme de s'imposer entre guillemets?
Alors la chambre de commerce et d'industrie, c'est effectivement des commerçants, des industriels et des entreprises du service. Les artisans, c'est nos collègues
de
la chambre des métiers.
Excusez-moi.
Avec une directrice d'ailleurs,
Madame Sahué.
Stéphanie Dantès, directrice, et une présidente, Madame Sahué. Plus dur, sincèrement, je me suis jamais posé la question. J'espère que c'est les compétences qui font la différence, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme.
Mais c'est bien si vous ne posez pas la question.
Non.
Ça veut dire que ça ne transpire pas, en fait.
Ouais, non. Il n'y a pas de difficulté particulière par rapport au sexe.
Mm-hmm.
Peut-être pour certains, mais en tout cas, ils ne le disent pas. Donc au moins, moi, là-dessus, ouais. je suis assez
L'Aveyronnais reste poli.
Oui.
Et tant mieux. Et justement, est-ce qu'au quotidien, il y a des hommes ou des femmes qui guident votre pensée, votre action? Enfin, parce que bon, vous avez été aussi propulsé par des pères, donc.
Alors propulsé avant tout par un moment difficile.
Mmh.
J'ai vécu une période difficile, et lorsque cette période justement, c'est vraiment. Tout s'est bien passé. J'ai eu une sorte d'adrénaline qui m'a vraiment donné l'envie de faire différemment les choses et autrement les choses. Et c'est ça qui m'a vraiment
propulsée. Vous êtes sortie de votre réserve.
Oui, j'ai senti pendant cette période-là que je pouvais faire des choses.
D'accord.
Parce que justement, j'avais vécu quelque chose de difficile et que ça s'était bien terminé. Donc déjà, c'est cet élément. Hein. Et je le dis souvent, mais c'est vrai. En 2004, j'ai senti une poussée. Qui a fait que, effectivement, après, j'ai eu envie de faire les choses différemment. Devenir directrice, j'y ai jamais pensé. Donc, c'est venu naturellement dans la la succession, d'abord la fusion, ensuite un travail très proche de Guy Combré qui était directeur, un CODIR qui m'a soutenu et bien sûr un président et des élus qui m'ont demandé de prendre la suite. Donc c'est la continuité. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de prendre des responsabilités managériales, parce que c'est ce que j'aime. Mmh. C'est peut-être aussi des personnes avec qui j'ai travaillé au niveau de la formation, des consultantes, et je pense à une en particulier, qui est quelqu'un d'exceptionnel.
Mais on
qui
peut a la toujours... nommer.
Oui, Marie-Jo, elle se reconnaîtra. Qui effectivement, en termes d'organisation, de management, a une vraie vision. Et m'a souvent donné énormément de conseils sans me dire comment il fallait faire.
D'accord, tout en finesse.
Voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné envie. Et puis je pense les gens très proches, ma maman, ma grand-mère, qui sont
des femmes là aussi.
Des femmes qui ont compté, qui m'ont beaucoup apporté.
Avec des fortes personnalités.
Oui. Oui, des fortes personnalités, même si c'était des femmes au foyer, mais qui avaient la volonté de transmettre à l'autre. Mmh. Donc ça, c'est important aussi. Pas de personnages illustres, mais plutôt des gens du quotidien qui, au quotidien, justement, donnent envie d'avancer, de bouger.
D'accord. justement, en ce moment, il y a une opération sur Envolez-vous avec les commerçants de l'Aveyron. Donc, c'est une opération qui existe depuis plus de 10 ans, j'ai l'impression. Donc là, c'est une opération qui fédère donc tous les commerces de l'Aveyron sur une 20aine d'associations, on va dire. Justement, vous êtes partenaire de ce mouvement. Enfin, comment vous le vivez, cette animation?
L'animation des commerçants, c'est une organisation difficile. Ils sont plus de 6000 sur le territoire. Donc, que la Chambre de commerce aide individuellement chacun d'eux, c'était très compliqué. Et donc, il y a quelques années, nous avons décidé, en partenariat avec des associations de commerçants, de relancer la fédération, qui est la fédération 12e sens, au sens l'Aveyron, pour pouvoir justement non pas aider de manière individuelle chacun des commerçants, nous n'avons pas les moyens, mais mettre en place une grosse organisation commerciale, publicitaire, pour que chaque consommateur local puisse nos consommateurs locaux aient une pensée de consommer local, justement. Donc le plan d'action a été mis en œuvre autour de ces fédérations, de la fédération pour ces associations, un plan de com important et où la CCI apporte des moyens financiers, des moyens humains, mais où justement la diffusion est bien plus large que si nous étions.
C'est une dynamique vraiment départementale.
Dynamique départementale. Alors c'est la Chambre de commerce, mais c'est également bien sûr la fédération qui porte ça et des partenaires banquiers, radio, la presse qui aident pour que justement nos commerçants puissent bénéficier de l'ensemble des retombées.
D'accord. Donc c'est l'opération Envolez-vous avec vos commerçants qui dure jusqu'au 15 mai, je crois.
C'est ça. Voilà. C'est à chaque fois pendant la période du printemps.
Voilà, tout à fait. Mais merci de votre venue, Patricia Fontanier, je rappelle, directrice de la CCI de l'Aveyron. Merci et on vous souhaite encore une belle continuation dans votre mission.
Merci à vous et bonne réunion.
Réunion, oui, on peut le dire. Réunion au sommet.
Je suis que dans la technique.
Dans l'efficacité.
Merci vraiment de votre présence. À très
Merci
bientôt.
Merci à vous.
Donc on va enchaîner tout de suite avec une petite chanson de Brigitte, Hier encore.
Je me ferai plus belle pour Eva, c'est ça qui pousserait ton amour loin de moi.
C'était Brigitte qui dit hier encore. Et justement, à présent, c'est le débat débile ou pas, à vous de voir. Qui ose aborder le sujet que personne n'ose aborder, le sujet qui fâche, le sujet qui fait grincer des dents. Oui, 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 ici, on ose lancer un débat sur le « c'était mieux avant ». Effectivement, mesdames, sachez tout de suite que le français de base est passéiste. Oui, d'après un sondage réalisé par BVA du 6 au 7 décembre 2012, oui, je sais, c'est un peu vieux, sur environ 1000 personnes âgées de plus de 18 ans, ces fameux français, s'ils avaient une machine à voyager dans le temps, eh bien en fait, 54% d'entre eux voudraient aller dans le passé plutôt que le futur. Vous imaginez?
Ouais. Alors, quelle époque peut-être?
Et voilà, ça fait drôle, hein. Donc, pour le futur, ben, c'est seulement 44% des gens, des Français qui disent oui, 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 moi je prends une machine à voyager dans le temps et je vais dans le futur.
Et il y a un lien avec les tranches d'âge?
Toute catégorie
d'âge compte.
Ouais, 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 voilà. Par contre, il y a quand même les sympathisants de droite, eux préféraient quand même aller dans le passé, à environ 58%.
Pourquoi ça m'étonne pas?
Les réacs. Et ensuite, bon, forcément, les sympathisants de gauche sont un peu plus futuristes, à 52%. Donc voilà. Alors, on va pas détailler, hein, sympathisants socialistes, PS, tout ça. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même que les Français les plus âgés, eux, préféraient aller voyager dans le futur.
Ah.
Donc,
oui,
ils sont pas si nostalgiques que ça, finalement.
Oui.
Et donc, ça, c'est à peu près à hauteur de 48% des Français les plus âgés qui sont pas forcément nostalgiques du passé.
Et oui, disons que les plus âgés n'ont pas envie de quitter cette planète Terre et aimeraient pouvoir aller voir ce qui se passe plus loin. C'est, ça,
ouais,
c'est un lien avec l'âge, pour le coup.
Fait.
Et que les difficultés de la vie, ils sont passés au travers et du coup,
et puis après, ça. Si vraiment les plus âgés ont connu aussi des périodes difficiles.
Des périodes difficiles, d'après-guerre, enfin, on peut peut-être aller, je sais pas si si on peut aller remonter jusque là en termes de temps, mais c'est vrai qu'on a quand même les seniors, nos anciens qui ont connu des périodes extrêmement difficile
et
c'est vrai qu'aujourd'hui
aussi, et de maladies
vraiment de la vie était une question même de survie donc c'est vrai que quand même
ils veulent espérer que ça soit mieux dans le futur les
générations à venir,
que ça se reproduise pas
et alors les jeunes par contre c'est plutôt 41% ils iraient dans le futur et à contrario ils plébiscitent le passé. Ça c'est marrant.
Fou, ça.
Et moi j'ai interrogé quelques-unes de mes amies jeunes et plutôt des filles et en fait j'en ai interrogé 4 ou 5, majoritairement, elles préféreraient le passé. C'était mieux avant, oui, sans nul doute, parce que on était moins connectés. En fait, elles sont tout le temps sur leur portable et elles se sentent presque en prison avec ce portable. Mmh. Et ensuite, elles trouvaient que la vie était plus simple. Qu'aujourd'hui, tout est compliqué, tout est payant. Il faut s'affranchir de tout. Et en plus, que la liberté est très contrainte. À cause des réseaux sociaux notamment. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut te voir n'importe où, te commenter tous tes faits et gestes, et en fait, t'as pas de liberté individuelle. Les commentaires sont tous commentés. Enfin voilà, c'est surtout ça, la liberté qui les gêne et la simplicité de la vie d'autrefois
Et en même temps, c'est un peu paradoxal parce que finalement, c'est nous-mêmes qui livrons notre vie finalement sur ces réseaux sociaux. Hein. C'est nous qui, je le disais tout à l'heure, c'est marrant, ça fait un peu écho à ce que je disais. Finalement, on livre un peu en pâture notre vie,
Et
c'est vrai qu'on est vraiment livré. On contrôle plus rien. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la moindre chose, il faut être préparé aux critiques parfois les plus basses. On voit les dégâts parfois que ça fait chez les jeunes. Et je comprends d'ailleurs de ce point de vue-là que certains préfèrent peut-être être moins connectés revenir à des valeurs peut-être un peu plus saines, quoi, parce que
et des relations humaines plus directes, plus franches, et donc du coup se référer au passé en disant c'était mieux avant
parce que c'est peut-être pour ça qu'on
a besoin. Il y a peu de temps là, ils ont j'ai lu ils ont fait une étude pour définir la nouvelle génération. On en était à la génération
Y,
et là ils en ont défini une autre qui est les 15-30 ans quand même, donc c'est
large,
deux générations. Je crois qu'ils l'appellent la génération K et ça correspond tout à fait à ce que tu disais, Angéline, c'est-à-dire qu'elle est définie, bon, par contre ce que t'as pas dit, alors peut-être tes amis t'en ont pas parlé, elle est liée aussi à un côté hyper anxieux. Oui, c'est une génération possible. Hyper anxieuse par rapport à tout. Le boulot, le climat, la politique, voilà. Donc il y a ça, effectivement, les 40 dernières années, on leur a, en plus, c'est vrai, on le leur a dit, ils l'ont vu à travers leurs parents et leurs grands-parents, ça a été des époques de progression à tout niveau. Et là, eux, ils sont arrivés, ils sont en train de parler de crise, depuis 10 ans, ils entendent parler que de crise, de crise, de crise. Donc ils sont hyper anxieux et effectivement en recherche, c'est ce qui est étonnant, comme tu le disais aussi, René,
d'une nostalgie,
de vraies relations humaines. Voilà, donc effectivement, qui regrette le passé, c'est pas très étonnant finalement.
Ouais, finalement ça
parce que ça conviendrait mieux aux valeurs qu'ils recherchent aujourd'hui, savoir cette liberté.
Par rapport au passé, ce qui reproche aussi, notamment ces jeunes filles, c'est qu'elles ont l'impression que tout est interdit.
Mais
par rapport à leurs parents ou leurs grands-parents qui ont peut-être fait mai 68, etc., où il y a peut-être un fantasme là-dessus aussi, parce que c'était quand même rigide, hein, l'éducation de l'époque.
Oui, mais justement, et eux, ils ont tout pété.
Voilà, ils ont tout envoyé bouler, c'est sûr, mais elles nous disent, il y a des messages partout d'interdiction. Ouais. Tu fais 3 mètres dans la rue, tout est interdit. Ouais. Tout est interdit, et on est figé, mais c'est vrai, il y a moins de créativité, moi, je trouve.
Ah, complètement.
Hein. La créativité.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Mais frigide.
Enfin, et c'est hyper terrible. Moralisateur.
En plus,
très moralisateur. Oui.
C'est terrible. Donc voilà. Ouais. Alors bon, on a quand même vu le progrès chez les femmes, n'est-ce pas? Les droits des femmes et des libertés ont progressé. Oui. Hein, depuis 1791, où Olympe de Gouges a rédigé les droits de la femme et de la citoyenne, on a fait du chemin. Donc De Gaulle a donné le droit des votes aux femmes le 29 avril 1945. Ma grand-mère m'en a parlé. C'était un très grand jour pour elle. Elle disait, enfin, on était reconnus comme un être humain. Elle m'avait dit ça.
Ah ouais, c'est pas rien.
Imaginez. En même temps, ils ont reconnu à travail égal, salaire égal, parce que jusque-là, c'était quand même le salaire féminin qui était dans les contrats de travail. Donc, c'était différent. Donc, on a fait des progrès, bien sûr.
Tout est relatif. Hein. Voilà. C'est plus marqué dans les contrats, mais la différence, elle existe.
Dans les faits.
Alors, 25%, juste.
Alors, justement, non, c'est en train de réduire.
C'est bien.
Et ça, c'est très, très bien. C'est-à-dire que c'était effectivement très haut. Il y a encore 10 ans, c'était 21% d'écart. Et en fait, on tombe à 19% d'écart entre le salaire des femmes et le salaire des hommes.
Donc, je dirais que c'est presque 18 de trop, mais bon.
On est bien d'accord. Mais l'écart, aujourd'hui, même les hommes même les hommes sont un peu moins augmentés. Par contre, les femmes voient leur salaire progresser.
Et pour donc, les remettre à niveau.
Voilà. Et donc, même chez les cadres, etc. Donc, ça, par contre, c'est notable.
C'est positif, hein, tout à fait.
Voilà. Et je le savais pas. Donc, c'est en préparant cette étude, j'ai dit, OK, on a moins de salaire, mais il y a quand même un écart qui se réduit, donc tant mieux. Alors après, bien sûr, il y avait la loi sur la contraception, la loi Neuwirth, hein, qui a autorisé la contraception en 1960, et ensuite l'interruption volontaire de grossesse, donc qui aurait été légiférée grâce à Madame Veil en 1975. Donc c'est les grandes dates, on va dire, hein, des droits de la femme et de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le combat n'est pas fini? Enfin, comment vous le vivez, vous?
Le combat n'est pas fini. Et puis, je trouve que depuis 10 ans, on a intérêt, si on croit en ces choses-là, hein, si on a envie de défendre les droits de la femme, on a intérêt à être extrêmement vigilante. Parce que ce qui me semble, c'est que, justement, les plus jeunes sont le porte-drapeau d'idées qui vont 30 ans en arrière. Il y a une jeune femme, on en entend parler depuis quelque temps, là, qui tente à représenter la future droite, qui est anti-avortement, qui parle d'homicide concernant l'avortement, qui a des mots quand même très, très durs, et cette jeune femme a 25 ans. Par rapport, après, là aussi, on pourra en débattre, hein, mais par rapport au port du voile, par rapport à ces libertés-là aussi dans notre pays.
Il y a des réminiscences qui font peur.
Il y a des
choses
qui sont un peu, effectivement, inquiétantes. Donc, moi, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant sur ces progressions-là pour qu'elles restent un droit et une normalité.
T'en penses quoi, Christelle?
Je suis d'accord avec Pénélope. C'est vrai qu'il faut... On a l'impression qu'il y a certaines choses qui avancent, qui progressent dans le bon sens. Parler des salaires, mais effectivement, au niveau des mentalités, il faut, comme disait Pénélope, rester très vigilant. Moi, je suis entièrement d'accord avec avec toi.
Ouais. Donc toi, René, tu trouves qu'il faut, faut faire attention?
Moi, j'ai un regard qui est à la fois celui d'une femme issue de l'immigration, donc qui vient d'un pays où le droit des femmes n'est pas aussi avancé que celui qu'on a ici. Donc, je mesure quand même le confort et le luxe même qu'est la liberté par rapport aux femmes qui sont encore dans nos pays en voie de développement, enfin dit en voie de développement, où il y a quand même des initiatives qui sont mises en place. Il y a des femmes qui reprennent les rênes un peu de la société civile. Il y a des les femmes jouissent parfois d'un statut. En tout cas, les plus âgées sont vraiment vues comme les sages et sont très respectées. Et de ce fait, elles reviennent un peu sur le devant de la vie sociale et elles s'emploient à redonner du sens, à réinculquer des valeurs de respect qui commencent parfois un petit peu aussi à s'effacer avec une occidentalisation un peu brutale qui se mêle à un fond de misère. Donc ça, c'est vraiment, on est parfois on se sent un peu en perdition par chez nous. Donc en tant que femme issue de l'immigration, je vois vraiment, je bénis la liberté dont jouissent les femmes en France notamment, en Europe.
Au quotidien, tu le sens. Ouais.
Complètement. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai monté une entreprise, je peux travailler, je peux élever mes enfants toute seule, je ne dépends de personne, alors que dans mon pays, une femme se définit d'abord parce qu'elle est mariée. Donc,
Et par l'homme
qu'elle épouse. C'est voilà, c'est vraiment un objectif de vie, c'est être mariée. Si t'es pas mariée, t'es rien, t'as pas de consistance, t'as pas d'enfant, c'est encore pire. On se définit d'abord par ses fonctions de mère et de femme au foyer, avant d'être un individu.
Donc toi, tu l'as vécu et
j'ai carrément le béni. Ah oui, carrément, je suis en opposition complète, je suis un peu une ovni, mais je suis vraiment en opposition contre ça, donc j'apprécie et je milite à ma façon en France. Et je voyais un documentaire très intéressant hier soir, justement sur des quartiers dits sensibles en région parisienne.
Alors oui, c'est très intéressant.
Voilà, où il y avait effectivement, là on parle vraiment des valeurs que l'on défend en France de façon globale, mais il y a quand même des poches, des zones dans notre pays
où la mixité est en danger.
Et où les jeunes filles d'une vingtaine d'années sont complètement isolées de toutes ces valeurs-là, de toute cette liberté. C'est-à-dire qu'elles n'imaginent même pas pouvoir avoir le droit de choisir un métier, d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit de jouir de cette liberté-là, d'avoir un choix professionnel.
Mais justement,
il y a des
études sociologiques sur ces fameux quartiers dits sensibles. C'est assez effrayant depuis une dizaine d'années. Donc, il y a des sociologues qui observent aussi pour voir comment évoluent ces banlieues. Donc, en fait, l'homme et le jeune homme a perdu sa virilité dans ces quartiers-là, quelque part parce qu'ils n'ont pas d'avenir, pas d'emploi, pas de formation. Et donc, en fait, ils vont physiquement trouver les bas des immeubles, les parcs, etc. Ils vont se les réapproprier physiquement. Et en fait, la femme, la jeune fille, est bannie de ces lieux-là. Elle n'a pas intérêt à s'arrêter et parler ou saluer un copain. Elle est automatiquement montrée, jugée et rejetée. Sa réputation est entachée. Alors en fait, ils classent, les jeunes hommes et les hommes, classent les femmes en deux catégories. C'est des putes ou des filles bien. Voilà, il n'y a pas de juste milieu.
C'est ça.
Et la pute, ça peut être la jeune fille qui a juste dit bonjour à son cousin dans la rue. Donc en fait, la femme et la jeune femme sont carrément invisibles de ces banlieues et de ces quartiers dits sensibles où il y a un recul du droit de la femme qui est terrible. Et ça, c'est effrayant parce qu'en plus, du coup, elles vont s'expatrier. C'est-à-dire, soit elles vont épouser ou voir quelqu'un d'une autre banlieue, ou soit carrément, c'est comme dans le film Tout ce qui brille, elles vont se perdre dans les nuits parisiennes ou dans... Et là, à contrario, elles vont se lâcher avec des droits qu'elles vont s'approprier et bon, pourquoi pas aussi mal tourner. Donc voilà, c'est terrible, mais la jeune fille dans ces quartiers là, le c'était mieux avant. Je sais pas
j'en
forcément.
Pas, voilà,
elles le vivent mal. Hein. Elles le vivent mal. Elles sont pas reconnues. Enfin, c'est terrible pour être une femme aujourd'hui dans les banlieues, malheureusement. Alors justement, en parlant d'amour, les ados aujourd'hui. Donc, il faut savoir quand même qu'ils sont romantiques, nos chers ados.
Oui.
Oh là là. L'air de rien, ils sont plus tendres et ils ont quand même un rapport à ça qui est plus... on croit qu'ils couchent tous à 13 ans. Non, c'est pas ça du tout. C'est quand même assez protégé. Donc, en effet, pour eux, à 91% d'entre eux, ils disent que le plus important, c'est d'aimer pour faire l'amour la première fois. Donc ça, c'est rassurant. Hein, c'est là aussi un sondage d'Ipsos de 2015, donc sur 800 adolescents. Pour la première fois, pour eux, c'est faite par amour, à 83% d'entre eux. Donc c'est quand même...
C'est rassurant, c'est bien.
Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce type de chiffre-là.
Je suis très agréablement surprise.
Il y a une pression sociale, ils le reconnaissent. Ouais. Hein, 14% d'entre eux ont dit, bon, ok, allez, c'est aussi un peu pour faire partie de la génération. Mais il y a quand même, voilà, 8 ados sur 10 aussi, par contre, pensent être plus inventifs que papa-maman au lit. Ah, ils sont plus romantiques, mais
ouais, mais quand tu parles de tes parents, forcément, tu brides ton imagination quand t'as la leur. Hein.
Voilà, donc moi ça m'a fait sourire. Donc il y a quand même de la créativité,
oui,
hein, René.
Tout à fait, tout à fait. La créativité se retrouve partout.
Voilà. Par contre, le préservatif, hein, c'est que 65% d'entre eux qui trouvent que c'est important, alors que nous, notre génération,
c'est plus inquiétant
quand même.
Déjà.
Voilà. Moi, je trouve que ce chiffre est très très léger, hein, parce que pour les quarantenaires autour de cette table, c'était quand même à 95% d'entre nous, hein, le préservatif était indispensable à toute relation. Donc moi, je trouve ça très léger. Et seulement 66% de ces petits jeunes font attention à la grossesse. Voilà.
D'accord. Donc tous les contraceptifs, pilules et compagnie, c'est pas
c'est
une question
deux tiers,
qui est...
Hein, quand même.
Ah ouais, c'est...
Et donc c'est là où moi, je trouve qu'on a reculé quand même. C'est sur la prévention... Oui. Des MST, sur la grossesse,
ouais,
etc. Ouais. Et on en parle peut-être tous les jours, mais peut-être pas assez. Voilà.
Pas comme il faut.
Oui,
pas par les bons biais.
C'est ça.
Pas les bons canaux.
On le prend pas forcément sur le bon angle. Ouais.
Ouais.
Voilà. Donc, le c'était mieux avant, bon, je sais pas comment conclure, mais c'est vrai qu'il y avait une petite liberté dans les années 90, qui était un peu, il y avait un vent fou.
Il y avait un brin de folie, ouais. Il y avait quelque chose de nouveau, c'est vrai que dans les années 90 et début des années 2000, il y avait une espèce d'insouciance, il y avait quelque chose de ce goût-là.
Un peu m'as-tu vu
aussi. Complètement.
On cramait le fric.
C'était dans un bling-bling, c'était horrible, c'était une débauche de tout, quoi.
Et de la
conso, oui.
Les grands magasins.
Ouais.
Il y avait tout ça. Maintenant, on revient un peu sur le consommer local, justement, on en parlait, sur le retour à la terre, les racines, etc. Et tant mieux, parce qu'on avait été très loin quand même dans ces grands magasins.
C'était voilà, ouais, moi je dirais que au présent, il y a plein de choses encourageantes qui se passent. Donc moi je suis très contente d'être au présent.
Bon, c'est très bien. Toi Pénélope,
ça dépend des thématiques. Si on prend aussi la santé, on peut dire que il y a eu des gros progrès en termes de santé, recherche, etc. Donc effectivement, dans le futur, on peut voir des choses belles à venir. Et puis c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on en fera qui est important.
Exactement.
Bon, mais voilà. Bon, mais merci. On va conclure avec la chanson de Wick Gilson, Afterglow.
Even though the dancing's done, don't worry, 'cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. So dancing's done, don't worry, 'cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. So
C'était Wilkinson Afterglow avec un super clip que je vous invite à voir sur YouTube. Vous verrez, il y a plein de créativité pour le coup de la part de cette jeune fille, Wilkinson. À présent, c'est parti pour les Ruten Echo. Autrement dit, les petites pépites que les échappées belles glanent pour vous sur le Grand Rodez. Bien sûr, des pépites à savourer, à partager avec les gens que vous aimez. On commence tout de suite avec Crystal qui nous annonce quelque chose qui se passe dans les quartiers des Ambergues.
Oui, moi je vais rester dans les fleurs. Donc pour aujourd'hui, ça sera les Floréales. Au quartier des Ambergues. Ce quartier qui, au Moyen-Âge, était la porte d'entrée dans la ville depuis l'Auvergne, d'où son nom Alvernia, déformé en Ambergues.
Historique.
Historique. Ouais. Et donc, ça fait 3 ans déjà que le collectif de Lilo, Bonald, qui est devenu une association, qui est présidée par Dorothée Carpentier. Ce collectif, donc, s'active pour valoriser le quartier. Et le samedi 28 mai, de 10h à 22h, elle proposera un parcours ludique et une foultitude d'interventions artistiques dans un espace rendu piétonnier. Il y aura des boutiques éphémères, de la peinture, de la musique, des contes, des ateliers créatifs, entre autres. Alors, je vous invite à venir découvrir toutes les surprises concoctées par les artistes, les artisans, les commerçants et les habitants du quartier. Venez en prendre plein les yeux, plein les oreilles, rencontrer, savourer et participer. Réservez donc votre journée du 28 mai.
Donc c'est dans le quartier des Ambergues, les Floréales, n'est-ce pas ?
C'est ça
s'appelle comme ça.
Floréales, voilà, pour fêter le printemps.
Ouvert à tous, hein, c'est pas que pour les enfants. Hein.
Tout le monde.
D'accord, hein, voilà. Donc 28 mai prochain, dans le quartier des Ambergues à Rodez. On enchaîne, je crois, avec une soirée lecture. Ah non, ça sera la veille, hein, le 27 mai, c'est ça ?
Alors non, justement, il y a eu un petit décalage. En fait, le restaurant La Toile Cirée, qui est 4 rue de la Barrière, donc place du Bourg, une petite rue qui descend, organise normalement tous les derniers vendredis du mois une soirée lecture de 20h à 22h. Donc exceptionnellement, pour le mois de mai, elle aura lieu le 20 mai.
D'accord,
donc 20h à 22h le 20 mai, donc chez Anna de la Toile Cirée. Donc ces soirées lecture existent depuis plusieurs mois maintenant. Donc en fait, ce sont des intervenants qui vous font part des livres qu'ils aiment, ils échangent là-dessus. Et petite nouveauté pour cette fois-ci, si vous-même vous avez un coup de cœur, vous pouvez venir avec et en faire part aux autres lecteurs qui seront présents ce soir-là. Donc n'hésitez pas, le cadre est très sympathique. Anna Mazar, semble-t-il, est également très sympathique. Donc passez un bon moment le 20 mai.
À la toile cirée. D'accord, très bien. Tu as une autre soirée aussi, Renée, à nous proposer.
Oui, toujours dans la rubrique business, la soirée prestige du Centre des jeunes dirigeants, le CJD Aveyron. Et cette année, c'est sur le thème leadership et énergie positive au pluriel, s'il vous plaît.
Ça a lieu quand ?
Alors, c'est le 26 mai 2016, à partir du 19h, à la salle des fêtes de Rodez. Alors, cette année, des invités prestigieux, hein, comme tous les ans. Le philosophe Vincent Cespedes, qui animera en préambule une conférence autour du dynamisme et de la détermination. Et le pilote d'élite de la Patrouille de France, qui partagera son expérience de l'influence et de la fédération d'une équipe.
C'est Monsieur Rizzoli, n'est-ce pas ?
Exactement.
Voilà. Donc, c'est quand même...
Philippe,
c'est un comme ça. C'est un beau gosse de la Patrouille de France qui vient parler du leadership en équipe.
Voilà.
Moi, je veux bien le rencontrer.
Moi aussi.
Et c'est ouvert à tous.
Je veux bien me laisser l'idée.
Hein, ouvert à tous.
Complètement, c'est ouvert à tous.
Mais c'est payant.
Par contre, c'est payant, effectivement. Voilà. Alors pour les tarifs, il faut aller sur le site cjd-du6aveyron.fr ou alors appeler au 06 16 18 4 24-61.
Donc la soirée prestige du CJD avec le leader de la Patrouille de France le 26 mai à la salle des fêtes de Rodez.
Et voilà.
Eh bien merci. Moi c'est pas une pépite, hein, c'est juste un petit coup de gueule que je vais lancer. Je trouve ça déplorable qu'une ville aussi calme et aussi sympathique à vivre que Rodez installe bientôt 100 caméras sur 31 lieux de vie de la belle ville de Rodez. Donc moi, je pensais pas, en ayant vécu à Montpellier, en ayant vécu à Paris, Corodès était victime des agressions que peuvent connaître les grandes villes. Donc voilà, je suis choquée, peinée, surprise. D'autant plus que la facture est élevée, c'est 300 000 euros que vont coûter donc l'installation de 100 caméras sur 31 lieux de vie de Rodez, dont effectivement 30% vont être financés par l'État. Moi, je trouve que voilà, l'opposition, pour une mairie de gauche déjà, c'est quand même un peu réac. Ça me fait drôle.
Pas du tout entendu parler.
Si, si, c'était la une de Centre-Presse il y a quelques jours. Donc voilà, 100 caméras dans la ville de Rodez pour protéger notre petite ville bourgeoise. C'est très bien. Allez, on enchaîne.
C'est dit.
Voilà, c'est dit. Et pourtant, je suis issue d'un milieu bourgeois. Mais voilà, on va passer. C'est pas grave. Donc c'est la fin de la 16e
échappée belle. Vous nous la mettez en colère, Angélie, ça va pas du tout.
Donc si vous avez des coups de cœur, bien sûr, pas que des coups de gueule, vous pouvez nous en envoyer redaction.rodez@cfmradio.fr. Donc les échappées belles et moi-même, on vous souhaite une belle semaine pimpante et fraîche. On espère vous retrouver sur CFM Rodez dans 15 jours et on se quitte tout en finesse et en grâce avec Gypsy King, Novo Valley.
No volveré, no quiere recordar.